Nous sommes entrés en carême depuis mercredi et nous savons que ce temps de carême, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, va durer 40 jours. Jésus a été tenté pendant 40 jours au désert et vous savez sans doute que, comme souvent dans la Bible, les chiffres ont une symbolique. Et le chiffre 40 signifie l'enfantement à une vie nouvelle. C'est le symbole d'une transition vers un nouvel état. Il faut 40 semaines de grossesse pour qu'une femme mette au monde un enfant. Et donc nous sommes appelés justement à vivre aussi cette nouvelle naissance, cette transformation dans nos vies. Et Jésus est emmené dans le désert et nous aussi nous sommes invités à aller au désert. Vous savez que la Bible a été écrite en deux langues, l'hébreu et le grec. Et en hébreu, désert se dit midbar et c'est très proche de medabar qui signifie parler. Donc Jésus nous emmène au désert car c'est le lieu où nous pouvons entendre Dieu nous parler et où nous pouvons parler à Dieu. Mais en grec, c'est le terme eremos et eremos qui a donné la querelle, la tentation et qui a même donné le mot tentateur. Donc le désert, c'est à la fois le lieu où nous pouvons entendre Dieu nous parler, mais aussi le lieu de la tentation. Et aujourd'hui, les lectures sont extrêmement riches et nous sommes invités à entrer dans un triple mouvement. Le premier mouvement, c'est de reconnaître, et nous l'avons entendu dans la première lecture, notre état de pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons vu comment Adam et Ève ont péché, comment finalement Dieu a créé l'homme par amour. On nous dit que le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Et vous savez que quand on modèle, on pense tout de suite aux mains. Et les mains, parmi les cinq sens, c'est ce qui symbolise le plus l'amour. Parce que c'est avec les mains qu'on touche, qu'on caresse, qu'on embrasse. Plus que les autres sens qui sont des sens plus éloignés de la personne. Donc Dieu nous a modelés par amour. Et il a même insufflé dans nos narines le souffle de vie. Mais nous avons perdu cette intimité avec Dieu. Et nous l'avons entendu dans la première lecture. Et il y a eu cette tentation qui est passée par le serpent, par le fruit, par Ève, et l'homme a péché. Et une fois que l'homme a péché, il s'est rendu compte qu'il était nu. Or, vous savez aussi que, symboliquement dans la Bible, le vêtement signifie l'identité. Voilà pourquoi d'ailleurs nous les prêtres, nous revêtons l'aube qui rappelle aussi notre baptême. Vous pourriez d'ailleurs tous venir avec une aube le dimanche, parce que vous êtes tous baptisés. Et puis nous revêtons aussi la chasuble, qui rappelle que nous n'agissons pas en notre propre nom, mais que nous agissons in persona Christi. Le vêtement dans la Bible signifie l'identité. Et dans un psaume, on nous dit que Dieu a pour manteau la lumière. Or, après avoir péché, l'homme se rend compte qu'il est nu. Alors, nous sommes tous pécheurs. Saint Jean le dit à sa manière dans la première épître. Au début de sa première épître, au verset 8, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Nous sommes des menteurs, tous nous sommes pécheurs, vous comme moi. » Et c'est le premier constat à faire en ce début de carême. Nous sommes pécheurs. Qu'est-ce que le péché finalement ? Le péché, c'est une offense à l'égard de Dieu. Et nous l'avons entendu aussi dans le psaume, ce merveilleux psaume 50 qu'on attribue à David après son péché, lorsqu'il a péché avec Bethsabée. Et voilà ce qu'il dit dans ce psaume 50. « Contre toi, et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. » Le péché, c'est d'abord une offense à l'égard de Dieu. Mais le péché, c'est aussi une désobéissance, une révolte contre Dieu, par la volonté de devenir comme des dieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils voulaient à la fois connaître le bien et le mal. Or, c'est une prérogative divine. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal, ce n'est pas à nous de le décider. Et en voulant manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, quelque part, Adam et Ève ont refusé leur condition humaine. Ils ont voulu être comme Dieu, ils ont désobéi à Dieu, ils ne l'ont pas écouté. Ils n'ont pas voulu se soumettre à sa volonté. Le péché, c'est une offense. Vis-à-vis de Dieu, c'est une désobéissance. Et le péché, c'est aussi d'abord l'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu, comme dit saint Augustin. Alors que si nous voulons entrer dans cette sanctification à laquelle nous sommes appelés, Eh bien, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Alors oui, le péché est entré dans le monde. Et le péché nous a coupés de cette intimité avec Dieu. Et quelles ont été les conséquences pour nous, pour vous, pour moi? Deux conséquences principales. L'affaiblissement de notre nature humaine, en ce sens que, avant d'avoir péché, nous étions dans un état de justice originelle où nous étions impassibles, c'est-à-dire que nous ne mourions pas et nous ne souffrions pas. Et nous étions dans un état d'harmonie avec la création, avec Dieu, avec nous-mêmes, en ce sens que notre esprit maîtrisait nos passions. Et nous étions aussi en harmonie avec les autres. Et finalement, donc, le péché a introduit un désordre en nous. Il a introduit aussi, cette deuxième chose, c'est la triple concupiscence dont parle saint Jean. L'orgueil de la chair, l'orgueil des yeux, l'arrogance des richesses. Et on en parlera quand nous verrons un peu plus loin les trois tentations. Donc finalement, premier constat, premier mouvement en nous, nous sommes pécheurs, reconnaissons-le. Nous ne sommes pas parfaits et notre nature a été blessée. Car oui, nos premiers parents ont péché et depuis, eh bien, tous les hommes naissent pécheurs. Mais le deuxième constat, et c'est un mouvement que nous allons prendre aussi avec le Christ et qui nous donne une espérance, c'est que le salut est possible. Et nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, nous dit que si nous accueillons le Christ, qui est le nouvel Adam, eh bien le Christ pourra nous arracher à cet état de péché et il pourra nous réconcilier avec Dieu. Je vous lis le passage que nous avons entendu. « Si, en effet, la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, » nous l'avons entendu, saint Paul nous l'a dit, « eh bien, bien plus la vie pourra nous être donnée par le Christ, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. » Vous savez, dans les Actes des Apôtres, aussi nous sommes au chapitre 4, les apôtres commencent à évangéliser, saint Pierre et saint Jean nous disent « Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Le Christ est notre seul sauveur. Le Christ est notre seul médiateur. Et pour accueillir à nouveau cette vie divine, nous devons nous tourner vers lui. » J'allais dire, nous n'avons pas le choix. D'ailleurs, vous savez que Jésus, Yeshua en hébreu, signifie « Dieu sauve ». Et je vous le dis souvent, il nous sauve de deux choses, de la mort et du péché. Et les lectures nous en parlent encore aujourd'hui. Il nous sauve du péché parce que nous sommes tous pécheurs, et il nous sauve de la mort, car c'est le pire des maux que nous connaîtrons un jour, et tous un jour nous mourrons. Et vous savez d'ailleurs que peut-être que Jésus, qui s'est incarné, vrai Dieu et vrai homme, deux fois dans la Bible, on le voit pleurer. Il pleure la mort de son ami Lazare. Car justement, la mort n'est pas quelque chose de divin, de naturel pour lui. Alors il pleure la mort de son ami Lazare, mais il sait qu'il va le relever d'entre les morts. Et il va pleurer une deuxième fois sur le péché de Jérusalem. Jérusalem, si tu avais accueilli les prophètes, mais tu n'as pas voulu. Et il pleure sur le péché de Jérusalem. Car Jésus, le Sauveur, est venu nous sauver du péché et de la mort. Et nous savons que nous devons nous tourner vers lui. C'est saint Paul qui nous le dit. En lui, nous aurons le salut. C'est la grande tentation de l'homme moderne aussi, comme le disait saint Jean-Paul II, de vouloir se sauver par lui-même et de ne pas se tourner vers le Christ. Or, nous savons, c'est le Christ qui nous sauve. Tournons-nous vers lui, particulièrement pendant ce temps de carême. Et si nous nous tournons vers lui, et c'est le troisième mouvement, nous pourrons vivre de son esprit, sous le souffle de l'esprit. Christ, ça veut dire celui qui est oint, celui qui est rempli totalement par l'Esprit de Dieu. Nous aussi, nous avons été marqués par l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Mais reconnaissons-le, nous ne vivons pas toujours totalement de cet esprit d'amour, de cet Esprit de Dieu. Eh bien, demandons cette grâce, en accueillant le salut qui nous vient par Jésus-Christ, de vivre jour après jour sous le souffle de son Esprit. Et c'est là que je reviens à l'Évangile. Et vous avez remarqué, comme moi, que dans l'Évangile, c'est un peu étonnant. On parle souvent de cet évangile comme de l'évangile des tentations du Christ, certes, mais regardez les détails au début. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Donc c'est bien l'Esprit Saint qui pousse Jésus au désert pour y être tenté. Et justement, on va le voir, nous l'avons entendu, Jésus ne va pas succomber à la tentation, car il est rempli totalement de l'Esprit de Dieu. Et il va pouvoir combattre donc les trois concupiscences dont je vous parlais tout à l'heure. Une petite remarque au passage, quand on commente les tentations, on voit finalement qu'il y a ces trois tentations et que Jésus ne dialogue jamais avec Satan. À chaque fois, à la tentation, il donne en face la parole de Dieu. « Ah oui, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains ?» Jésus ne discute pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Il répond par la parole de Dieu. « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, il ne faut pas discuter avec le diable. Il ne faut pas s'arranger en disant « Finalement, le Seigneur m'en demande pas tant. » Mais il faut croire justement que nous sommes habités par l'Esprit Saint, que nous avons reçu le jour de notre baptême et que nous avons les réponses aux tentations dans la parole de Dieu. En plus, parfois Satan utilise la parole de Dieu. C'est ce qu'il fait dans la deuxième tentation. Satan lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il est écrit dans la Bible, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Satan est malin. Il utilise aussi la parole de Dieu, mais pas totalement. Voyez, il dit « Si tu te jettes en bas, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte des pierres. » Mais il a oublié le verset qui suit. Et quel est le verset qui suit? Vous irez voir dans le psaume 91. « Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. » Et donc ça annonce déjà la chute de Satan, la défaite de Satan. Alors, il s'arrange avec la parole de Dieu. Nous ne nous arrangeons jamais avec la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans sa totalité, même s'il y a des paroles qui nous perturbent et qui sont compliquées. En tout cas, vous voyez, en face de la tentation, eh bien, ne discutons pas, mais plongeons-nous dans la parole de Dieu, plongeons-nous dans la personne du Christ. Et ainsi, nous pourrons combattre ces tentations. Traditionnellement, on dit que, oui, c'est la tentation de l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses et du pouvoir, l'orgueil de l'esprit humain qui se prend pour la source de lui-même. Et nous avons plusieurs moyens pour lutter contre ces tentations, notamment les conseils évangéliques que nous, religieux, nous avons prononcé et que nous essayons de vivre d'une manière pleine et entière, mais que vous-même, laïcs, baptisés, êtes appelés aussi à vivre à votre manière. Vivre de la chasteté, c'est-à-dire renoncer à mettre la main sur les choses et les personnes. Vivre de l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire renoncer au pouvoir et aux richesses, dans un esprit de pauvreté. Vivre aussi dans l'esprit d'obéissance, c'est-à-dire renoncer à soi et accepter de dépendre de quelqu'un qui est plus grand que moi dans la confiance. Vous verrez, ces trois conseils évangéliques, vous êtes appelés aussi, vous, à le vivre, comme jeune, comme personne mariée, comme baptisée. Nous, nous le vivons dans notre consécration religieuse, mais chacun, nous sommes invités à vivre cela. Et ce sont trois moyens pour lutter contre ces tentations. Trois autres moyens, eh bien, c'est le jeûne, l'aumône et la prière, bien sûr. Le jeûne face à l'orgueil de la chair, l'aumône face à l'orgueil des richesses, la prière face à l'orgueil de l'esprit. En tout cas, soyez innovants, soyez intelligents et essayez de trouver, tout au long de ce carême, des moyens pour lutter contre ces tentations qui nous assaillent jour après jour. Oui, parce que nous le savons, nous sommes pécheurs, mais nous savons que le Christ nous a sauvés. Il est le nouvel Adam, qu'il veut nous donner le salut. Nous savons que nous sommes faits pour vivre sous la conduite de l'Esprit-Saint. Eh bien, tout au long de ce carême, demandons sa grâce. Demandons l'aide de l'Esprit-Saint pour lutter contre les tentations, pour reconnaître notre péché et pour accueillir l'amour de Dieu dans nos vies. Saint Paul le disait, l'Esprit habite en nous depuis notre baptême. Vivons donc sous la conduite de l'Esprit. Et comme Jésus qui s'est laissé conduire au désert, nous aussi, pendant ces 40 jours de carême, laissons-nous conduire par l'Esprit. Amen.